The Constitution is not a suicide pact. It does not leave us stuck with presidents who abuse their power in unforeseen ways that threaten our security and democracy.
C'était Adam Schiff, hein, je pense, le procureur principal des démocrates au procès de Donald Trump.
Un de ses collègues, en fait, Jerry Nadler de l'État de New York, qui, en fait, plaidait exactement la même chose qu'Adam Schiff un peu plus tôt cette semaine. Là, les démocrates en étaient à leur deuxième journée complète. Ils vont en avoir trois comme ça. Ça va s'étirer jusqu'à demain où ils présentent l'ensemble de leur cause. Évidemment, pour la destitution de Donald Trump, aujourd'hui, on a vraiment mis l'emphase sur la question de l'abus de pouvoir. Donc, je te résume essentiellement ce qui a été plaidé aujourd'hui. Ce qu'on a dit, c'est que l'abus de pouvoir, contrairement à ce que Donald Trump et son équipe arguent, ça n'a pas à être relié nécessairement à un crime sous-jacent pour que ça justifie qu'on destitue le président. Autrement dit, ce que Donald Trump dit depuis des semaines, en fait, c'est que OK, on m'accuse d'avoir abusé de mon pouvoir, mais c'est lié à aucun crime sous-jacent. Donc, c'est pas suffisant pour justifier qu'on me destitue.
Je suis pas sûr que je te suis.
Ben, c'est ça le problème. C'est impossible à suivre. Si toi qui suis ça, comme à peu près personne aux États-Unis a de la misère à suivre, crois-moi que pour le commun des mortels qui a regardé ça aujourd'hui, mais... qui va entendre parler de ça aux nouvelles, c'est en bon français du légalise. C'est impossible pour le commun des mortels à comprendre ça.
Qu'est-ce qu'il veut dire par crime sous-jacent?
Ce qu'il veut dire, c'est que souvent, et je ne suis pas avocat criminaliste moi-même, mais souvent, lorsqu'on accuse quelqu'un d'abus de pouvoir, c'est qu'on a abusé notre pouvoir dans le contexte d'un crime plus large, qu'un crime autre que l'abus de pouvoir. Et donc, on a abusé de notre pouvoir pour commettre un
autre crime. L'abus de pouvoir a mené à un autre crime, mais lui, il dit qu'il n'y a pas eu d'autre crime.
Exactement.
OK, OK. Alors que ce qui nous amène ici, c'est le fait qu'il a simplement demandé, bêtement demandé au président ukrainien, écoute, on va t'envoyer l'argent qu'on t'a promis, là, que le Congrès t'a promis pour te défendre contre l'agression russe. Mais si tu pouvais nous aider à trouver de la MARDE sur Joe Biden, mon adversaire politique, ça aiderait à accélérer les affaires.
C'est ça. Et là, ce que Donald Trump dit, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dit que c'est un crime. Donc, il n'y a pas de crime en soi. Donc, même si on m'accuse d'avoir commis de l'abus de pouvoir à cause de la situation que tu veux décrire, c'est pas un abus de pouvoir.
Ça, c'est sa défense.
C'est une partie de sa défense. Et donc, les démocrates ont essayé de contre-attaquer là-dessus et ils ont aussi ressorti un extrait d'un actuel sénateur républicain. Donc, autrement dit, un membre du jury. Parce qu'on le rappelle, les 100 membres du Sénat sont les 100 jurés dans toute cette affaire-là, dans ce procès-là. Donc, un actuel sénateur qui, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, en 99, était un des procureurs de la Chambre des représentants contre le président de l'époque, contre Bill Clinton, dans son procès en destitution, et qui avait dit ceci, je le cite, « Si on juge que le président a causé des torts à des gens, bien, c'est assez pour l'impeacher. » Autrement dit, ça n'a pas besoin d'être un crime. Mais c'est quoi le critère qu'on utilise? Et elle est où la ligne entre « c'est suffisant pour impeacher, pour destituer, et ça ne l'est pas, c'est que c'est politique, parce que c'est politique. »
Appuyons sur pause là, sur l'actualité du procès aujourd'hui, ouais. Raphaël, et dis-moi, est-ce qu'ils se sont entendus sur les deux choses qui étaient en litige? C'est-à-dire, on voudrait présenter des témoins et on voudrait présenter des nouveaux faits. Est-ce que là-dessus, on a avancé?
Non et oui. Pour reprendre l'ordre de tes questions, on ne s'est pas entendu sur les témoins, on s'est entendu sur les preuves. Donc, les nouvelles preuves, normalement, il devrait pouvoir y en avoir une fois qu'on va avoir fini les présentations d'ouverture, qui encore s'échelonnent pour toute la semaine. Une fois que ça s'est fait, si les procureurs, l'équipe de procureurs souhaite amener devant le Sénat des nouvelles preuves, normalement, on devrait les laisser faire. Mais le nerf de la guerre, il est davantage du côté des témoins. Et ça, non, c'est toujours pas réglé. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, écoute, ça fait maintenant presque 72 heures qu'on a commencé. Franchement, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a absolument rien qui bouge. Et je vais même aller plus loin que ça, là. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont glués à CNN. C'est plate à CNN présentement. Ça fait 3 jours, c'est plate. C'est pour ceux qui s'attendaient à sortir leur popcorn et leur nachos, là. Attendez peut-être justement à ce qu'il y ait des témoins.
Attendez le Super Bowl.
Ouais, ou le Super Bowl, effectivement, qui s'en vient quand même assez rapidement.
Hey, je pensais que les sénateurs, les 50 sénateurs du Sénat étaient obligés... Les 100 sénateurs du Sénat étaient obligés de rester assis pendant toutes les procédures. Et là, je lisais tantôt dans le New York Times que les républicains et les démocrates prennent des libertés avec ça.
Oui, mais en fait, tu as raison. Techniquement, ils le sont. Ils sont obligés. Et là, Écoute, quand c'est rendu que tu lis ça, parce que c'est la manchette de la journée, c'est la controverse de la journée, ça donne une petite idée de la platitude de la chose. Parce que là, la question, c'est de savoir, oh, est-ce que tel sénateur qui a osé se lever et quitter la pièce pendant qu'on... Écoute, on est là. Hier, je te disais, en fait, je pense que tu pensais que c'était une blague, mais c'était pas une blague, là, que la chose la plus controversée qui s'était passée, c'est qu'on avait vu une sénatrice passer un paquet de gomme à un de ses collègues. Tu sais, on est là-dedans. Et la réalité, c'est que ces 100 sénateurs-là, là, présentement, dans la quasi-totalité des cas, ont déjà décidé, il y a des semaines, comment ils allaient voter. Peu importe ce qu'on entend, ça ne bougera pas. Tu
sais, Raphaël, il faut rappeler une chose, c'est que l'emprise de Trump sur son parti est tellement forte. Autour de sa personne, il y a tellement d'admiration chez beaucoup d'Américains républicains que c'est quasiment un suicide politique pour un sénateur de voter contre le président dans ce procès-là.
Tu dis quasiment, j'aurais le goût d'enlever le mot quasiment à ta phrase. C'est un suicide politique. Et écoute, c'est drôle parce que sans vouloir plugger mon livre pour la énième fois de la semaine, là, permets-moi quand même de citer un extrait du livre que j'ai publié la semaine dernière dans lequel il est question justement de cette espèce d'emprise-là de Donald Trump sur le caucus républicain au Sénat et à la Chambre des représentants. Il y a un sondeur de très longue date dans les cercles républicains qui est très connu, qui s'est fait demander il y a quelques mois, et c'est ça qu'on cite dans le livre, qu'est-ce que ça veut dire en 2019, maintenant en 2020, là, d'être un républicain? Sa réponse, sans hésiter, être un supporteur de Donald Trump.
Oui. Alors que, historiquement, dans le système américain, c'est pas comme ça que ça marche. Là, ce qu'on voit aux États-Unis dans le Parti républicain, là, c'est un peu une discipline de parti, un peu comme au Canada. Et d'habitude... T'as des républicains, t'as des démocrates qui vont voter contre le président, contre des politiques du président, contre des projets de loi, contre des idées, etc. Parce que t'es pas supposé d'être dans une dynamique
de discipline de parti,
oui, pas du tout. Mais ce qu'on voit dans le Parti républicain de plus en plus, c'est ça, c'est qu'il y a un rapport de parti quasiment de système parlementaire canadien-britannique.
Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est pas par amour envers Donald Trump, c'est par peur de Donald Trump. Il y a une quantité énorme encore du caucus républicain au Sénat qui viscéralement n'aime pas le président, mais n'a pas le choix de l'appuyer parce que leurs électeurs à la maison, eux, sont rangés en bloc derrière lui.
Mais il y a un analyste américain là, qui faisait remarquer cette semaine que si tu prends toutes les courses dans les États, pour les courses locales, même au niveau national, il y a plusieurs dizaines de républicains depuis que Trump est arrivé qui ont perdu des courses. Fait qu'il y a un marché hors de Trump aussi.
C'est vrai. En même temps, ce qui est également vrai puis qui a également été documenté, c'est qu'à peu près tous les républicains, tous les élus républicains qui sont sortis très publiquement, là, je parle pas en privé, là, publiquement contre le président, ont payé le prix à la maison. Et pas dans l'élection générale. Pas lorsqu'il y avait des électeurs démocrates, des indépendants puis des républicains, mais dans des primaires républicaines. Ils se faisaient sortir ou ils avaient tellement peur de se faire sortir par les électeurs républicains dans d'éventuelles primaires qu'ils décidaient tout simplement de se retirer. C'est un petit peu
comme
ça,
Jeff Flake.
Notamment ouais, l'ancien sénateur de l'Arizona.
Arizona, oui, t'as raison. 16h56, OK, on a encore un petit peu de temps. Parle-moi de l'éducation supérieure, qui est une grosse business aux États-Unis.
Une grosse problématique et une grosse business. On s'en est parlé un petit peu plus tôt cette semaine, mais je voulais qu'on revienne là-dessus aujourd'hui parce qu'il y a un nouvel article, justement, dans le Wall Street Journal qui a été publié et qui parle de la capacité ou non de payer de plusieurs étudiants. Pour peut-être mettre ça plus concret, aller à l'université publique. On parle de quoi, l'université publique? J'en ai un exemple, l'Université de la Virginie. Ça coûte 16 000 US par année en frais de scolarité. Là, on ne parle pas des livres, on ne parle pas du transport, on ne parle pas de l'alimentation, on parle de rien sauf les frais de scolarité en tant que tel. Et ça, c'est une université publique. C'est l'université qui sont les moins chères aux États-Unis. Les universités privées, comme exemple Harvard, pour prendre l'exemple classique, c'est près de 50 000 par année. Par année. US, et ça inclut rien d'autre. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire en sorte que les étudiants peuvent se le permettre? Et il y a des universités, donc, qui commencent à considérer la possibilité de, considérer comme facteur d'admissibilité la capacité de payer des étudiants. Sauf que le problème avec ça, évidemment, c'est que tu te ramasses dans une situation où c'est pas une méritocratie, c'est pas une question de mérite. On décide de qui peut aller à l'université sur qui a la capacité de payer ces frais-là. Tu sais, dans un système, encore une fois, qui se veut méritocrate, qui se veut démocrate, avec un petit D, des majuscules, ça pose des sérieuses questions.
Tu veux pas, si on trouve que les frais de scolarité sont élevés ici, Raphaël, aux États-Unis, c'est très, très élevé.
C'est
merci.
C'est une autre game.
On te retrouve demain, 16h33, dans 16h57 et 33 secondes. Au retour, on va parler de ce crime horrible à Québec, un type qui a tué il y a 16 ans et qui aurait, selon toute vraisemblance, encore tué dans les mêmes circonstances. Nos chroniqueurs sont là aussi, Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, etc.